France fait primaire pour la paix de Dominique Philippe le 24 avril 2002 à Saint-Gilloux.
On continue ce sujet très important, difficile, parce que on a des tendances ou d'exagérer ou de supprimer. C'est très net dans notre monde d'aujourd'hui. Supprimer le masculin, le féminin, et d'arriver à un troisième genre fabriqué par l'homme. L'homme a toujours envie de faire son œuvre, donc de faire un être qui soit ni homme ni femme, parce que la nature, c'est le fondement, la nature. C'est pour ça que c'est si important. On doit tout le temps y venir. C'est le fondement. La nature, elle est nette. Je ne parle pas de la volonté de Dieu. Je ne peux pas en parler tout de suite. Ce sera ensuite en philosophie. Dans un jugement de sagesse. Et c'est sûrement dans un jugement de sagesse qu'on aboutit à comprendre le pourquoi. Il n'y a pas d'ange masculin et féminin. C'est le troisième genre. Mais il est antérieur. Il n'est pas postérieur. Dieu l'a fait d'abord. Et Dieu a voulu qu'il y ait ça. Ah, le philosophe doit constater cela et essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi la nature humaine, comme nature humaine, n'est parfaitement réalisée que dans l'homme et la femme. Il faut accepter de ne pas réaliser toute la nature humaine, si on est homme, si on est femme, on la réalise partiellement. C'est peut-être, n'est-ce pas, peut-être, pour nous maintenir dans l'humilité et la pauvreté. On a envie d'être toujours un peu le modèle des autres. Et donc, être archétype. Et au fond, on ne peut pas. Donc, je dirais, l'homme et la femme, respectés dans leur diversité, nous maintient dans l'humilité. Et c'est peut-être à cause de ça que c'est si difficile de maintenir cela. De voir que il y a des qualités que la femme peut acquérir et que l'homme a toujours d'une façon très gauche. Il y a des qualités que l'homme peut acquérir et que la femme ne peut pas acquérir. Il y a une espèce de très grande humilité et une humilité fondée sur la nature. Et l'homme qui veut être tout, la femme qui veut être tout, eh bien, il y a fondamentalement un manque de réalisme. Le réalisme de la nature. Vous voyez, et ça c'est important parce que nous sommes un monde aujourd'hui où on a la grande tentation de supprimer la nature. Le point de vue mathématique, je reviens toujours là-dessus parce que je crois que c'est ça la grande arme. le point de vue mathématique n'est ni féminin ni masculin. Et fait croire à l'homme et à la femme qu'ils peuvent être tout. Et la femme veut que l'homme soit toujours un enfant, et elle la mère, parce que elle porte l'enfant, et l'enfant doit lui ressembler. Et l'homme a toujours la tendance de montrer la femme, elle est serviteur, elle est servante. Elle n'est pas celle qui va compléter en étant la femme. Quand Jésus dit à Marie « femme », c'est, je crois, extrêmement important. Théologiquement, mais même philosophiquement, c'est extrêmement important que Jésus, pour sa vie apostolique, commence à appeler Marie femme. Et c'est seulement dans l'évangile de Jean. Et donc c'est très facilement oublié. Il y a quelque chose, je crois, d'extrêmement important, cela, pour nous. C'est que je ne peux pas, homme, réaliser toutes les virtualités de la nature humaine. Je ne peux pas, étant femme, réaliser toutes les richesses de la nature humaine. Et il faut maintenir jusqu'au bout, jusque, on dira, dans l'achèvement parfait de l'homme et de la femme, la distinction. Et c'est au fond très difficile, vu le climat dans lequel on est, tend à supprimer la nature, à tout voir au point de vue personnel. Alors au point de vue personnel, on essaie d'unir, et qui veut faire l'ange, hein, le vieux dicton, fait la bête. Et à fond, il y a ça actuellement que nous ressentons, je crois qu'on peut ressentir très nettement. On voudrait arriver à unir les deux pour faire un type original qui soit ni homme ni femme et qui soit l'œuvre de l'homme et non plus de la nature. C'est la grande tentation, ça, philosophiquement. Vous voyez, on n'a pas vu, au point de vue métaphysique, vraiment ce qu'est la personne. Parce que si on voyait, au point de vue métaphysique, vraiment ce qu'est la personne, on verrait que la personne, c'est le développement parfait, le plus parfait qui soit, de la nature. Jusqu'au bout, on garde la distinction de l'âme et du corps. Ça, c'est la nature. La personne voudrait supprimer ça par la conscience. J'ai conscience de ce que je suis, c'est toujours âme et corps. Oui, la grande tentation d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a là quelque chose d'important pour nous, de nous rappeler ça. Et la distinction de l'homme et de la femme se prend en premier lieu du côté de la nature. Et c'est pour cela, vous voyez, qu'au fond, au point de vue de l'Écriture, elle nous est donnée comme première. Tout de suite. Et que le Saint-Père a commencé son pontificat par rappeler ça. Et que aujourd'hui, on oublie la famille. La famille nous donne le sens de l'homme et de la femme. Pas la politique. C'est très curieux, ça, du reste. Et c'est très intéressant. Si je prends le point de vue politique, implique peu à la Platon. Et si sous la lumière de la politique que regarde l'homme et la femme, je dirais tous les deux sont des citoyens. Un citoyen qui apporte des qualités différentes, c'est vrai, mais au fond, en tant que citoyen, je m'en sers comme fonctionnaire aussi bien homme et femme. Et l'idéal, c'est que aussi bien que l'homme et la femme peuvent se remplacer. Mais vision de Platon, et qui est actuelle, hein, c'est la vision actuelle, ça c'est sûr. La vision d'Aristote, au contraire, c'est de commencer par la famille. Parce que la famille voit, elle, la différence entre l'homme et la femme. La famille, c'est l'union des deux. L'union des deux dans une unité pour faire une œuvre commune. L'œuvre commune de l'homme et de la femme se trouve réalisée parfaitement dans la famille. Et c'est ça la famille. Et personne ne peut supprimer ça. Puisque c'est la nature. Je n'ai pas choisi d'être un homme, je n'ai pas choisi d'être une femme. Vous voyez, il y a une humilité radicale dans ça. Accepter ce qu'on est. La nature, à ce point de vue-là, nous donne une très grande leçon. Accepter ce qu'on est et pas vouloir toujours vouloir faire ce que l'autre fait. Vous faites ça, je le fais aussi bien que vous. Attention, on vous demande autre chose. Vous voyez, c'est, je crois, quelque chose de très important, ça, philosophiquement, hein, de voir que la personne n'est pas première et que la nature est première. C'est peut-être la première chose que la distinction de l'homme et la femme nous apprend. C'est très beau de voir métaphysiquement ce qu'est la personne humaine. Et c'est très beau de voir que dès qu'on a vu métaphysiquement ce que la personne humaine, les différences, dire attention, la personne n'est pas première, il y a la nature. Alors, la personne fait comprendre la finalité. C'est vrai. Je vois tout de suite que ma fin humaine n'est pas ma fin naturelle. Ma fin naturelle, la fin naturelle de l'homme, c'est la procréation. La fin naturelle. Faire que l'espèce continue. Et on voit tout de suite l'alerte quand, dans un pays, il y a plus de morts que de naissance. Il y a donc un oubli de la nature. Et cet oubli de la nature fait que nécessairement on tombera dans la domination de la mort. La mort supprime l'individu, ne supprime pas l'espèce. La mort est inscrite dans l'espèce. Mais justement, il faut que l'espèce accepte de se prolonger dans la famille. La famille est source d'un renouvellement constant de la nature, de l'individu, un renouvellement constant. Et elle permet de renouveler le point de vue de la personne. La personne ne renouvelle pas la personne en tant que personne. Elle est liée à l'individu. Et elle a la tentation d'oublier la nature. On voudrait arriver à dépasser la nature. Et arriver uniquement au point de vue personne. Donc, il faut bien saisir ça. Je crois que c'est la première chose qu'on doit saisir. C'est que la génération, la procréation me met en face du problème de la nature. Et quand on ne voit plus ça, on tend à supprimer la famille. Ce qu'on fait actuellement. On tend à supprimer la famille. En voyant que c'est pas intéressant la famille. C'est trop nature. C'est pas assez personnel. On doit se rappeler que la distinction homme et femme, c'est parce que la nature humaine, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Et le poids de la nature se fait entendre dans la distinction homme et femme. En premier lieu, puisque c'est en premier lieu la procréation qui me montre la grande diversité et en même temps la grande unité de l'homme et de la femme. C'est donc ce problème de la procréation qui est à creuser si je veux voir la diversité. Si je veux voir la coopération, si je veux comprendre comment ils doivent se regarder l'un et l'autre comme amis, unis dans l'amour, dans la finalité d'avoir des enfants. Et donc de continuer la nature. Tout ce qui est donc relatif à la procréation et donc la première éducation, elle est naturelle, elle est distincte pour l'homme, pour le petit garçon et la petite fille. Il y a cette distinction qui demeure. Je vous disais, il faut voir le moment où la nature est dépassée. La nature est dépassée, mais la nature existe toujours. Puisqu'il y a la mort. Ce n'est pas la personne qui meurt, c'est la nature. La mort est inscrite dans notre nature. L'ange ne connaît pas l'angoisse de la mort, ne connaît pas ce que signifie la mort pour un individu, pour une personne. Il y a là un problème propre à notre nature humaine. Oui. Notre naissance et notre mort nous rappellent que nous sommes des hommes et nous rappellent la qualité particulière de l'homme. C'est pour ça que la mort est une chose si importante. Et dans une civilisation qui veut dépasser la distinction homme et femme, la mort est très relativisée. On meurt dans un hôpital. Combien de personnes meurent dans un hôpital ? Alors que la mort, comme la naissance, est quelque chose d'extrêmement important pour le sens de la nature. Il y a quelque chose de très important. Alors, il faudrait voir, justement, la distinction entre l'homme et la femme au point de vue de la nature, au point de vue, la distinction de l'homme et de la femme au point de vue de la mort. Et c'est un problème qui nous intéresse tous. Et c'est un problème capital, puisque au moment de la mort, la nature reprend tous ses droits en face de la personne. La personne ne veut pas mourir. On ne peut accepter la mort que quand on reconnaît qu'on a une nature humaine. Distinction de l'âme et du corps. Si je ne distingue plus l'âme et le corps dans une perspective scientifique, mathématique, je ne vois plus ça. La mort est quelque chose qu'il faut le plus possible oublier. C'est un accident. Pour la personne. Et c'est très important. Donc, après avoir vu que pour la procréation, il y a les deux, l'homme et la femme, qui sont liés dans la même œuvre, ayant chacun leur caractère particulier, que les deux sont intimement unis et en même temps différents pour l'éducation. L'éducation maternelle ne peut pas se remplacer. Et le point de vue de la mort, le point de vue de la nature humaine reprend tous ses droits. Et il y aurait à étudier la différence de la mort d'une mère et d'un père. Et je suis persuadé que là, on découvrirait justement le point de vue ultime et dernier de la nature, de la distinction homme et de la femme. Ce qu'on ne regarde plus aujourd'hui, on prend la mort. On devrait étudier la mort de l'homme, la mort de la femme. Parce qu'au point de vue nature, les deux, et c'est la mort des deux qui, de fait, me fait comprendre ce qu'est la mort humaine. Il y a un moment donné dans l'éducation que les deux s'unissent. Alors, le premier moment de l'union, c'est la science, la connaissance scientifique, mathématique, puisque toutes les sciences dépendent des mathématiques. C'est vraiment la science mathématique qui unit à sa façon, à sa manière, le point de vue de l'homme et de la femme. C'est une union que l'homme fait, qui est fabriquée par l'homme. C'est l'homme qui fait les mathématiques, c'est pas Dieu qui les fait. C'est l'homme qui fait les mathématiques. L'homme est parfaitement conscient que les mathématiques sont son œuvre. Et c'est pour ça qu'il les aime tant. Qu'il aime tant les mathématiques. C'est qu'il est le maître, là. Et dans les mathématiques, y a-t-il une distinction entre les mathématiques féminines et les mathématiques masculines? Si vous sautez ça, on rigolera. On dira, mais non, c'est justement là l'unité. Et je crois que c'est important de voir ce point et de voir l'importance des mathématiques dans la perspective de Platon, dans la perspective d'Aristote. Parce que là, vous comprenez comment, dans la perspective platonicienne, l'unité se fait par les mathématiques. Et il faut passer par là. Et en passant par là, l'unité est faite de l'homme et de la femme. Tandis que pour Aristote, les mathématiques ne nous conduisent pas à notre finalité. Elles sont un moment très important, mais un moment qu'il faut dépasser. S'il n'y a pas un dépassement des mathématiques et donc des sciences, on n'entrera jamais dans la sagesse. C'est au fond un très grand problème pour aujourd'hui, ça. Et de bien comprendre que le développement des mathématiques sont un développement de l'intelligence humaine liée à l'imagination. C'est le domaine que l'homme peut faire. Il fait des mathématiques. Et il se laisse prendre par les mathématiques. Vous voyez pourquoi on est tellement pris par les mathématiques? Comment les mathématiques peuvent être tellement une espèce d'idole. Je crois que c'est le dernier idole. C'est un idole d'une très grande perfection, d'une très grande noblesse, mais c'est un idole. Parce que les mathématiques regardent uniquement l'homme et renvoient l'homme, et les mathématiques renvoient toujours l'homme comme étant la source des mathématiques, et étant la fin. Parce que elle arrive à dominer les autres sciences et les ramener à l'homme. Il y aurait là, je crois, un problème extrêmement important de notre, pour nous, et de voir justement comment chez Husserl, parce que c'est chez lui qu'on peut le mieux voir cela, chez Husserl, comment les mathématiques ont conduit à un nouveau type de philosophie. C'est la philosophie des valeurs. La fin se change en valeur. Les mathématiques peuvent forger, et je dis bien forger, les différentes valeurs de l'homme. Et là, l'homme et la femme s'unissent. Mais les valeurs ne sont pas ma finalité. Parce que la valeur, c'est l'homme qui l'a fait. Alors, on a cette joie très spéciale en mathématiques que plus on avance, plus on dit c'est l'homme. C'est la grandeur de l'homme. Mais une grandeur quantitative et non pas une grandeur qualitative. C'est ça qu'il faut saisir, que les mathématiques nous maintiennent dans la quantité et aboutissent à la valeur. Et là, l'homme a trouvé le moyen de dépasser la distinction homme et femme. Et forge une humanité nouvelle, sans Dieu, avec un idole ou une idole parfaite, les mathématiques. C'est-à-dire la science humaine. Les mathématiques représentant le sommet de cette science. Quelque chose qui est un sommet que l'homme mesure et donc se retrouve et par le fait même juge aussi tous les autres. Racontez cet exemple qui m'a beaucoup frappé. Il y avait un père dominicain qui était un grand mathématicien. Il était quand il préparait sa thèse mathématique, je l'aimais beaucoup, et il m'aimait beaucoup. Alors, on avait ensemble des conversations sur l'être mathématique. Et c'est intéressant de savoir ce que c'est que l'être mathématique. C'est pas l'être en tant qu'être, mais c'est l'être mathématique. Donc le mathématique qualifie l'être et lui donne des mentions particulières. Et l'être mathématique est toujours divisible à l'infini. C'est la divisibilité qui fait l'être mathématique. Et quand il faisait sa thèse, il était évidemment très solitaire, comme les grands matheux. Parce que dans les grands matheux, il y a très peu d'esprits avec lesquels ils peuvent vraiment continuer de penser les mathématiques. Et je lui ai dit, il y a combien de personnes, il est très, très humble en même temps, mais en même temps très mathématique. Je lui ai dit, il y a combien de personnes qui pourront lire votre thèse? Alors il a réfléchi. Il m'a dit, je crois qu'il y a 3 mathématiciens qui pourront comprendre ce que je dis. Oui. C'est pas mal, hein, de pouvoir réfléchir, oui, je crois. Oui. C'est extraordinaire de dire ça. Et c'était vrai chez lui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire ça. Il ne m'a pas dit un seul, non, 3. Il me les a nommés, donc il était le 4e. Et c'est vrai, cette chose-là, c'est quelque chose qui correspond à une réalité. Mais une réalité qui n'est plus humaine. Si je cherche la finalité, je dis tout homme doit atteindre sa finalité. Il l'atteint plus ou moins bien dans l'amitié ou la contemplation, mais il doit l'atteindre dans l'amitié ou la contemplation. Et si je suis philosophe, c'est pas pour 3 personnes. Parce que si je suis philosophe pour 3 personnes, mais ces 3 personnes habitent les États-Unis, c'était surtout les États-Unis, je crois. Il les avait jamais rencontrés, mais il avait lu ça, leurs articles. Donc, une rencontre mathématique. On n'a pas besoin d'avoir la vraie personne, il suffit de voir ce qu'il pense. Et voir ce qu'il pense, c'est le sommet. Alors, nous, les mathématiques, c'est un moyen. La différence entre l'homme et la femme, lorsqu'on dépasse le point de vue de l'amitié et qu'on arrive à la contemplation, y a-t-il encore une différence? Autrement dit, la nature humaine. Je reprends toujours la nature humaine, c'est pour ça que je l'ai prise au point de départ. La nature humaine existe-t-elle encore lorsque j'atteins ma finalité la contemplation de Dieu. Ma nature humaine existe évidemment dans l'amitié. Ça, pas de problème. C'est pour ça, autre chose est aimer une femme, autre chose est aimer un homme. Dans l'amitié, c'est autre chose. Indépendamment du point de vue sexuel. Si même dans l'amitié de l'homme à l'égard de la femme et de la femme à l'égard de l'homme, qu'on découvrira qu'il y a une manière de vivre différente qui se rencontre, qui s'explicite dans l'amitié. L'amitié de l'homme pour l'homme, l'amitié de l'homme pour la femme, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre. Parce que si on confondait, on oublierait la nature. C'est donc très important. La nature humaine demeure dans l'amitié. Elle est explicitée dans l'amitié. Elle est finalisée dans l'amitié. Mais la nature est là. Alors, le problème, savoir si la distinction de l'homme et de la femme existe jusque dans l'amitié, c'est sûr. Mais le problème, c'est de savoir si cette distinction existe encore pour la contemplation. Je parle au point de vue philosophique. Je ne parle pas au point de vue de la grâce. Je parle au point de vue philosophique. C'est un problème très important et très intéressant. Ma métaphysique qui atteint le problème de l'existence de Dieu, qui atteint le point de vue de la contemplation de Dieu. Ma métaphysique est-elle masculine ou féminine? Y a-t-il une métaphysique féminine et une métaphysique qui est homme? Non. Puisque la métaphysique regarde l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être est le même pour la femme et pour l'homme. Donc, la métaphysique est la même. Mais l'induction qui est ma montée vers les principes, qui est ma manière de faire ma métaphysique, l'induction, c'est la voie, c'est la méthode. L'induction est-elle la même pour l'homme et pour la femme? Le terme est le même. Mais la voie, la méthode est-elle différente? Il faut se poser le problème. Alors, au point de vue finalité, le principe substance, le principe acte est le même, c'est sûr. Il n'y en a pas deux. Mais la manière de l'atteindre, la manière de le découvrir, regarde toute l'éducation propre de mon intelligence qui dépasse l'imagination, mais qui s'en sert. Ah. L'imagination, donc, voyez comment je dois revenir, l'imagination de l'homme, du jeune homme, du garçon, l'imagination de la femme, de la jeune fille, de la petite fille, est-elle la même? Comme faculté humaine, c'est sûr, ce sont les mêmes. Mais l'exercice, or, l'imagination vit de son exercice. C'est ça qui est très curieux, puisque l'imagination, le propre de l'imagination, c'est vous-même qui vous donnez l'objet de votre imagination. L'imagination n'existe pas sans vous, sans celui qui imagine. Donc, l'imagination est le fruit de mon travail, de ma manière de travailler, de mon labeur. Donc, l'imagination est typiquement humaine. Et elle est masculine et féminine. Quant à son mode, pas quant à sa faculté, l'image, au point de vue de l'être, est la même de l'image chez le petit garçon et chez la petite fille. Elle est la même chez l'adulte homme et chez l'adulte femme. Mais la manière d'être de cette imagination n'est plus la même. Ah. Alors là, ce serait très intéressant de saisir ça. Vous voyez, j'ai saisi par les mathématiques le lien commun, je saisis en regardant l'imagination dans sa pureté d'imagination, dans sa naissance d'imagination. Elle n'est pas la même dans son exercice et donc dans ses spécificités, parce que le propre de l'imagination, c'est d'être spécifié par son exercice. Je fais des images, je les fabrique. Et là, il y a une diversité chez l'homme et chez la femme. Et cette diversité radicalement dépend du corps. L'imagination dépend de notre sensibilité et de notre corps. Donc, elle dépend de la féminité et de la masculinité. Forcément. Et quel est le caractère propre de l'une et de l'autre? C'est très délicat, ça. Et c'est très intéressant. Toute image, je regarde l'image, toute image est faite d'un aspect qualitatif et d'un aspect quantitatif. Toute image. Vous imaginez des monstres, vous imaginez des chiens féroces et des loups, vous imaginez des feux, des... toujours qualité, quantité. Il y a un poids des deux. Ah. Alors, c'est là où on doit voir le caractère spécifique de l'homme et de la femme. Et ça, ce serait très important. Je ne l'ai jamais vu fait. Mais en y réfléchissant, je me dis c'est que c'est ça qu'on doit essayer de saisir. Parce que le psychologue... Oui, voilà la différence entre la psychologie de l'homme et de la femme, mais il n'étudie pas le contenu de cette psychologie. Il en voit uniquement les effets. Tandis que le philosophe doit étudier le contenu imaginatif de l'homme et le contenu imaginatif de la femme. C'est pour ça que là, il y a deux éducations différentes, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles sont les mêmes en ce sens que c'est l'éducation qui consiste à faire dominer le point de vue prudentiel, le point de vue de l'intelligence pratique sur l'imaginaire. Ça, c'est vrai de l'homme et de la femme, c'est évident. Mais l'image comme telle sont distinctes. Et je crois que c'est le point important de distinction. Le dépassement, l'induction, par le fait même, prend un caractère différent chez l'homme et chez la femme. Il y a sûrement un type d'induction plus masculin, un type d'induction plus féminine. L'induction, vous vous rappelez tous ce que c'est, hein ? L'induction, c'est le passage de l'expérience au principe. Comment je puis découvrir la substance comme principe selon la forme de ce qui est ? Comment je peux découvrir le principe final, l'acte ? Donc c'est capital. Et la base de l'induction, c'est toujours l'expérience. Ah, et l'imaginaire se nourrit de l'expérience. Pourquoi aimez-vous les voyages ? C'est parce que vous pouvez renouveler votre imaginaire par l'expérience différente. Pourquoi, au bout d'un certain temps, on est fatigué d'être dans la même communauté ? On a toujours la même vision des gens. Donc, le renouvellement imaginaire, inductif, se fait par une expérience différente. Et l'expérience de la femme et l'expérience de l'homme sont différentes. La sensibilité féminine et la sensibilité masculine ne sont pas les mêmes. Et par le fait même, la manière d'être de l'imagination n'est pas la même. Et c'est très délicat de voir la différence. Il y a toujours deux éléments dans l'imaginaire. Le point de vue qualitatif et le point de vue quantitatif. Ce sont les deux éléments. Et la mixture de ces deux éléments font varier la manière imaginative de penser. Ça, c'est sûr. Donc, vous voyez, il y a une différence entre la manière d'unir qualité et quantité. Je crois que c'est là qu'on pourrait voir de la manière la plus profonde la distinction. Ah, vous allez me dire, ça dépend beaucoup des individus et de la première éducation. Oui, la première éducation, c'est évidemment du côté de la manière d'unir qualité et quantité. Ça, c'est sûr. Et la diversité des civilisations vient de là. Et donc la diversité hommes et femmes au point de vue vie intellectuelle, au point de vue démarche vers la finalité, parce que la finalité est la même. La finalité de l'homme et de la femme, c'est contempler Dieu. Et il n'y a pas un Dieu pour l'homme et un Dieu pour la femme. Ça existait au niveau des déesses. Il y a des déesses féminines et des déesses masculines. Ça, c'est sûr. Parce que justement, l'imagination, n'atteignant pas Dieu, se replie sur elle-même et on crée un Dieu. Et on crée une déesse. Les femmes créent leur déesse et les hommes créent leur Dieu. Alors, on a des dieux qui sont combatifs. Les hommes aiment ça. Le petit garçon joue avec un petit fusil, très vite. Un petit revolver, très vite. Puis pif, et puis tombe. Et la petite fille joue avec sa poupée. Ben, très vite, le contexte imaginatif est très différent. Et je voudrais saisir, dans l'imagination, la modalité différente. Et je crois qu'il y a une diversité. Et c'est ça qu'on doit essayer de saisir. La manière, toute image implique quantité, implique qualité. Aucune image n'est abstraite de la quantité. Aucune image ne peut être purement quantitative, sauf chez le malade. Ça, c'est vrai. La maladie fait que la quantité augmente et la qualité diminue. Dans les rêves, il y a l'aspect qualitatif et quantitatif. Et quand vous êtes très fatigué, l'aspect quantitatif augmente et la qualité diminue. Alors, est-ce que on verrait là une différence? Je pose le problème, parce que c'est très délicat. Mais il y a sûrement une différence entre qualité et quantité. Et dans les rapports amicaux entre l'homme et la femme insiste plus sur certains aspects et l'homme insiste plus sur d'autres aspects. Et c'est ce qui fait quelquefois des agacements dans l'amitié homme et femme. C'est que la femme insiste toujours sur ses éléments, l'homme insiste toujours sur d'autres éléments. Alors, ils s'entendent moins. Et donc, c'est toujours le rapport dans l'imagination, dans l'image, pas dans la pensée. L'intelligence n'est ni masculine ni féminine. Elle est angélique. L'intelligence, elle est angélique. Elle est divine. Mais l'imagination de l'homme et de la femme sont distinctes. Sont distinctes quant à leur mode. Faites bien. L'image est la même dans son contenu métaphysique. C'est toujours qualité et quantité. Mais le pourcentage entre le poivre et le sel est différent. La manière ironique. Vous voyez, alors on voit tout à fait le point de vue artistique. L'art d'un homme, l'art d'une femme. Parce que dans l'art, tout de suite, distinction entre la qualité et la quantité se voit. Et c'est là où on doit saisir la différence. Et on ne réfléchit pas beaucoup là-dessus. C'est pourtant ça qui me permet, alors faisons attention, hein, il y a des femmes qui pensent très fort comme des hommes, et des femmes et des hommes qui pensent très fort comme des femmes. Mais la distinction typique vient justement de la relation entre quantité et qualité. Le primat de la quantité, le primat de la qualité.